Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie en direct sur le studio Kalangou au micro Diallo Mariama Kenda. Le point sur l'actualité nationale en français, c'est maintenant. Il est 18h et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. L'opposition politique regroupée au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, dénonce la malgouvernance érigée en système politique selon elle. C'était dans une déclaration rendue publique ce matin. Retour sur le communiqué de Reporters sans frontières à propos de la condamnation du journaliste Baba Alpha. La direction générale du groupe Bonferré dénonce le commentaire fait hier sur la télévision nationale sur son supposé lien avec RSF. Ouverture hier à Paris de la conférence sur le sida. Quelques 6000 spécialistes de cette maladie sont réunis pour faire le point sur les avancées de la recherche et de la lutte contre le virus. Nous verrons ici au Niger comment les choses évoluent. Et puis nous irons à Difa dans la partie magazine de ce soir pour parler de la colère et de l'indignation des femmes de Nguimi suite à l'enlèvement des femmes et enfants de Ngalewa dans la commune rurale de Kabalewa. Bienvenue, messieurs, dames. L'opposition politique regroupée au sein du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR, a rompu son silence à travers une déclaration du public ce matin au siège du parti Modem FA Lumana. Au cours de cette sortie médiatique, l'opposition dénonce, je cite, « le dysfonctionnement et le manque d'équité de la justice », une situation qu'elle a qualifiée de « deux poids, deux mesures », fin de citation. Je vous propose un extrait de la déclaration lue par Amadou Jibo Ali Dimax, président du FDDR au micro de Habibou Garba.
Aujourd'hui, notre pays est victime d'une dérive majeure de la gouvernance fondée sur les deux poids, deux mesures. L'existence dans un même pays de citoyens justiciables et d'autres qui sont au-dessus des lois. Les libertés et les droits humains sont continuellement violés par le régime de la Renaissance. Il suffit de rien pour se voir embastillé. L'objectif étant d'intimider et de créer une psychose imputable au dysfonctionnement de la justice. La gratuité de l'accusation d'outrage à magistrat et ou de jet de discrédit sur une décision de justice culmine avec cette psychose. La récente interview accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique par M. Bazoum Mohamed et sa réponse à Amnesty International en sont la parfaite illustration.
Vous venez d'entendre Amadou Jibo Ali Dimax, président du FRDDR. Le Front exige la réaction, la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le budget alloué à la défense depuis 2011. Je l'annonçais dans les titres, dans son journal de 20h30 d'hier dimanche 23 juillet 2017, la télévision nationale du Niger a diffusé un commentaire dans lequel elle a rapporté que l'organisation Reporters sans frontières aurait affirmé n'avoir pas rédigé le communiqué relatif à la condamnation du journaliste nigérien Baba Alpha et que ce communiqué a été rédigé par Robert Ménard, l'ancien cofondateur de l'organisation RSF. Moustapha Abdourahman Zongoma, directeur général de Bonferré, réagit à cette polémique. Il est au micro de Tarnan Foudé Ahmad.
Le commentaire fait état que le communiqué diffusé par RSF à la suite de la condamnation du journaliste nigérien Baba Alpha, communiqué qui date du 19 juillet 2017 et qui est intitulé « Niger, le journaliste Baba Alpha condamné à la mort civique », un communiqué qui, à l'heure actuelle dont je vous parle, est toujours sur le site de RSF. Le mail, d'abord, nous ne le reconnaissons pas. L'adresse mail sur laquelle ce prétendu échange aurait eu lieu est intitulé bonferregroup@yahoo.fr. Cette adresse mail n'est pas l'adresse mail du groupe de radio-télévision Bonferré.
Il y a aussi l'histoire d'un contrat entre les RSF et les groupes de presse Bonferré. Qu'en est-il de ce contrat?
Tout celui qui connaît Reporters sans frontières aujourd'hui sait que Reporters sans frontières ne prend pas de contrat avec des médias ou bien des journalistes. De qui de Bonferré ou de Reporters sans frontières va payer, je ne sais pas, un contrat dans quel cadre pour faire quoi?
Moustapha Abdourahmane Zongoma, directeur général de Bonferré. Un mort et une blessée, c'est le bilan d'une attaque qui a été perpétrée à Garin Siliki, un hameau situé à environ 95 km à l'extrême est du département de Tanout dans la nuit du vendredi 21 juillet 2017. Notre correspondant Boubacar Mamadou Yaro nous raconte les faits.
Âgée d'une quarantaine d'années, la victime Issa Bounou Siliki est commerçant et gérant depuis pastoral de son hameau. Elle a été mortellement atteinte par des balles par l'un des trois bandits armés qui l'ont attaqué dans sa maison. Arrivés sur des motos qu'ils ont cachées non loin du hameau, les assaillants ont blessé la femme des victimes et sont répartis en direction du nord de Tanout en apportant une somme de 30 000 francs CFA. Aussitôt informée de la situation, la brigade de la gendarmerie s'est rendue sur le lieu où elle a organisé une poursuite et investigué dans les hameaux et les villages environnants. L'enquête a commencé et se poursuit sur le responsable en charge de l'affaire. De Tanout, Boubacar Mamadiaro pour le studio Kalangou.
Cérémonie d'ouverture ce matin, la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique à NEA, un atelier régional de formation sur le thème l'utilisation d'une approche basée sur les risques liés aux menaces nucléaires et radiologiques. Cette rencontre de 4 jours organisée avec l'appui de l'Agence internationale de l'énergie atomique vise à renforcer les capacités des experts nigériens et ceux de plusieurs pays africains présents en matière de sécurité nucléaire, comme nous l'explique la présidente de l'ANEA, Zeynabou Mindaoudou, au micro de Michel Dedji.
C'est pour permettre aux États de mettre en place des systèmes pour prévoir les menaces et les risques relatifs aux matières nucléaires et radioactives dans leur pays. Donc l'intérêt déjà pour le Niger, il est, je sais pas, c'est double ou triple. Premièrement, il y a le développement des ressources humaines. Cette formation, si elle n'était pas faite au Niger, le Niger ne pouvait pas nommer plus de 2 personnes. Donc c'est pour ça que quand on va dans les réunions, vraiment, on se bat pour que les gens viennent organiser des formations ici. Et le fait de faire cette formation au Niger, comme vous l'avez vu ce matin, il y a cette fois-ci 50 Nigériens qui vont être formés en même temps que les 30 pays africains qui sont sur place. Et si on veut utiliser tout ça en toute sécurité et en toute sûreté pour les êtres et l'environnement, il faut mettre en place des systèmes crédibles et efficaces de sûreté nucléaire.
Quelques 6000 spécialistes du SIDA sont réunis à Paris du 24 au 26 juillet 2017 pour faire le point sur les avancées de la recherche de la lutte contre le virus. Au Niger, l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest le moins infecté, avec une séroprévalence de 0,4%, le problème majeur demeure la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, nous a confié le responsable suivi évaluation de l'ONG Songe Niger, une ONG spécialisée dans la lutte contre les IST et le sida. Issa Karimou parle d'environ 63 000 de séropositifs au Niger.
C'est pas tous les 63 000 personnes là aussi qui sont sous traitement. Le Niger a adopté la stratégie des 3-90 et le testé traité qui consiste à mettre toute personne séropositive sous traitement. Parce que la science a démontré que quand la personne est mise sous traitement très tôt, il y aura un niveau où cette personne va avoir une charge virale indétectable. Et c'est à cette situation que nous, au niveau du Niger, nous voulons atteindre d'ici les années 2020-2030.
Est-ce que ce pourcentage, ce chiffre que vous venez d'avancer, représente peu pour un pays comme le Niger par rapport à certains pays de l'Afrique?
Vous savez, le problème, c'est que le taux de dépistage est très faible au Niger. Si ma mémoire est bonne, nous avons 12% de la population nigérienne qui connaît son statut sérologique. C'est trop bas parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui vivent avec le VIH mais qui ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas fait dépister.
Issa Karimou de l'ONG Songe Niger. Issa Karimou a déclaré que les antirétroviraux sont très disponibles et que l'une des difficultés rencontrées par les médecins prescripteurs, c'est la disparition parfois des séropositifs qui ne reviennent plus prendre leurs médicaments. et les parlementaires de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie et du Tchad souhaitent limiter à 3 le nombre d'enfants par femme afin de faire baisser de moitié d'ici 2030 le taux de fécondité le plus élevé au monde dans cette partie de l'Afrique. Cette décision a été prise samedi dernier au Burkina Faso. À Maradi, l'indice de fécondité est de 7,8 enfants par femme, dépassant le taux national qui est de 7,6. Pour Madame Adam Jari Rama, directrice régionale de la production, de la promotion de la femme, au vu de ce chiffre, il est plus que nécessaire de faire recours à la planification familiale. Elle est au micro de Mohamed Maman.
Nous avons plus de naissance, moins de terres cultivables. Moins encore, l'économie n'est pas favorable pour subvenir à nos besoins. Donc, je vois qu'il y a nécessité d'utiliser la planification familiale. La planification familiale n'est pas synonyme de la suppression des naissances, mais pour vraiment rendre l'environnement favorable. Souvent, si les grossesses rapprochées, les enfants sont malades, la mère est malade, les moyens aussi pour faire face à ces problèmes sont difficiles. Donc, je vois qu'il est tout à fait logique. Si on comprend que ce genre de prises de décision sont tout à fait logiques.
Suite à la visite surprise du président de la République dans la ville de Niamey le 18 juillet dernier pour constater de visu l'insalubrité criade, plus exactions de salubrité tous azimuts et même de déguerpissement de certaines boutiques installées de manière anarchique sont organisées dans les quartiers alentours des marchés ces derniers jours. Le gouverneur de Niamey était la semaine passée au marché Dar es Salaam où il a donné des instructions en vue de rendre cet espace salubre. Mais comment les commerçants perçoivent-ils l'engagement des autorités à faire de Niamey une ville coquette? On les écoute.
Nous sommes parfaitement d'accord avec les autorités pour rendre la ville de Niamey propre. Nous allons apporter notre pierre à l'édifice parce que la question de salubrité nous interpelle tous. L'initiative du président de la République de faire de Niamey une ville coquette ne doit pas être l'affaire des seules autorités. Chaque citoyen doit contribuer à l'atteinte de cet objectif parce que le Niger nous appartient tous et même si nous sommes à l'extérieur, nous souhaiterons que notre capitale soit propre. Nous avons déjà commencé les actions de salubrité. Vous voyez comment les alentours du marché sont propres et nous sommes également en train de déguerpir les boutiques installées de manière anarchique. Nous comptons faire plus à l'avenir. Nous ne sommes pas contre cette initiative. Cependant, les autorités doivent faire preuve de vigilance parce qu'il y a des endroits où ce sont les boutiques déguerpies qui contribuent à rendre la ville propre.
La partie magazine de ce journal à présent. À Diffa, les femmes sont en colère et indignées. Les femmes de Ngimi, suite à l'enlèvement des femmes et enfants de Ngalewa dans la commune rurale de Kabalewa. Écoutons Aïchatou Sadi, porte-parole des femmes Ngimi.
À l'occasion de cette journée citoyenne qui vise à demander le retour dans leur foyer de 39 femmes et enfin enlevé par la secte satanique Boko Haram lors de l'attaque barbare de la nuit du 2 au 3 juillet 2017 dans le village de Ngalewa. Ce sont 33 femmes mariées et jeunes filles et 6 garçons qui ont été enlevés, dont 35 ont l'âge compris entre 9 mois et 18 ans, y compris 3 élèves au collège. Ce sont 21 ménages qui sont concernés par cette prise d'otage. Il est légitime de nous demander pourquoi l'enlèvement de 39 personnes passe sous silence alors qu'une chèvre volée est activement recherchée. 3 semaines après cet acte crapulé, colère et indignation sont les sentiments qui nous animent devant le faible niveau d'engagement des autorités en vue de leur libération. Mis à part la timide tentative de poursuite observée dans la nuit, juste après les événements, la participation à l'enterrement des victimes et un communiqué laconique du gouvernement relatif aux événements, aucune action notaire n'a été posée par nos autorités. Cela constitue une grande déception pour les parents de ces victimes. Pire encore, la gestion récente du camp des déplacés de Kabalewa suite à l'attaque de 2 femmes kamikazes nous effraie tous. Devant tous ces constats, nous, parents des victimes présents devant vous, sollicitons de la part du gouvernement plus d'engagement et de professionnalisme.
Voici donc la réponse du préfet de Ngingimi.
C'est avec une vive émotion que je reçois cette déclaration des femmes de Ngingimi suite aux événements du 2 juillet de Ngalewa. Cela nous fait tous de la peine. Je vous donne l'assurance que cette déclaration sera remise aux plus hautes autorités de ce pays pour qu'elle soit une sorte de rappel pour que les efforts qui sont déjà en train d'être faits soient intensifiés afin que ces femmes et ces enfants-là, innocents qui ont été enlevés, reviennent dans leur foyer. Et pour que le gouvernement aussi intensifie les efforts qu'il est en train d'être fait toujours pour ramener la paix dans notre région.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.